afin que vous ayez la paix. Au fil des ans, ce fut un privilège de rencontrer tant de personnes venues du monde entier. Certaines personnes ne font que visiter Gdansk pour le week-end, découvrent l'Église Gospel et se joignent à nous. Peut-être que certains d'entre vous sont dans ce cas aujourd'hui. Mais c'est formidable de rencontrer de nouvelles personnes et d'entendre leurs histoires. Il y avait un visiteur dans les tout premiers jours de l'Église Gospel, nommé Ian, originaire des Pays-Bas. Ian était un homme sympathique et très novice dans la foi chrétienne. Il est devenu croyant lors d'un festival chrétien. La personne qui parlait sur la scène a dit « Venez suivre Jésus et tous vos problèmes disparaîtront. » Ian, qui avait beaucoup de problèmes à l'époque, s'est précipité vers l'avant. Il était désireux de croire et de voir ses problèmes disparaître. Alors il a commencé à croire en Jésus. Et au début, il était vraiment enthousiaste. Mais après un certain temps, ses problèmes n'ont pas disparu. En fait, ils se sont aggravés. Sa femme l'a quitté. Il a eu des problèmes au travail. Et lorsque je l'ai rencontré, il traversait vraiment une période difficile. Il a dit, « Clint, je pensais qu'en commençant à suivre Jésus, tous mes problèmes disparaîtraient. Que se passe-t-il ? » Peut-être que vous pouvez vous identifier à sa question. Vous avez commencé à suivre Jésus en pensant que tous vos problèmes disparaîtraient. Et pourtant, certains de ces problèmes demeurent. Peut-être que certains de ces problèmes se sont même aggravés. Mais est-ce que ce que ce prédicateur a dit lors de ce festival est réellement vrai? Jésus nous a-t-il promis que si nous le suivons, tous nos problèmes disparaîtraient? C'est ce que je voudrais que nous considérions ce matin. Si vous avez une Bible, veuillez l'ouvrir avec moi à la fin du chapitre 16 de Jean. Depuis quelques semaines, nous examinons ce que l'on appelle le discours dans la chambre haute, dans l'évangile de Jean. Il s'agit d'un ensemble d'enseignements que Jésus a donné à ses disciples lors du dernier repas, la nuit avant sa crucifixion. Nous avons commencé au chapitre 13, et ce matin, nous allons conclure l'enseignement de Jésus. La dernière fois, nous avons examiné le début du chapitre 16. Jésus enseignait aux disciples en utilisant des métaphores et un langage figuré. Maintenant, il va leur parler ouvertement.
25. Je vous ai dit ces choses en parabole.
L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais je vous parlerai ouvertement du Père.
26. En ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous.
27. Car le Père lui-même vous aime,
parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu.
28. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde.
Maintenant, je quitte le monde, et je vais vers le Père.
Jésus parle ici directement. Il dit que Dieu le Père l'a envoyé dans le monde.
Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle.
Jésus est venu, et allait bientôt aller à la croix, pour être crucifié. Pas pour ses propres péchés, car il n'en avait pas, mais pour nos péchés. Il mourrait, et serait enseveli. Mais trois jours plus tard,
il ressusciterait. Et entre sa résurrection et son ascension au ciel, il y eut environ 40 jours.
Et c'est de ce moment-là que Jésus parle, lorsqu'il enseignerait clairement toutes choses à ses disciples.
Il y avait simplement des choses qui n'auraient pas eu beaucoup de sens pour les disciples avant que la crucifixion et la résurrection n'aient eu lieu.
Ainsi, pendant ces 40 jours entre la résurrection et l'ascension, Jésus expliquera tout aux disciples.
J'aime le verset 28 parce qu'il résume bien ce qui va se passer. Jésus a dit, « Je suis venu du ciel sur la terre, et je quitterai finalement la terre pour retourner au ciel. »
Ce verset est parfaitement résumé dans le chant de louange,
« Seigneur, je lève ton nom. »
chantez-le avec moi.
Tu es venu du ciel sur la terre, pour montrer le chemin. De la terre à la croix, pour payer ma dette.
De la croix au tombeau, du tombeau au ciel, Seigneur, je lève ton nom très haut.
Un chant si simple, mais il contient tant de théologie.
Tu es venu du ciel sur la terre.
L'incarnation, Jésus est devenu chair et a habité parmi nous. De la terre à la croix, la crucifixion, par amour, il est mort sur la croix. Propitiation, pour payer ma dette. Sur la croix, il a payé la dette du péché que nous ne pouvions pas payer.
Résurrection, le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts, triomphant définitivement du péché et de la mort.
L'ascension, du tombeau au ciel. Après 40 jours, Jésus a été élevé auprès de Dieu le Père, au ciel. Et cela se termine par l'exaltation.
Seigneur, je lève ton nom très haut. Nous louons et adorons Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur.
Dans ce simple chant à quatre accords que beaucoup d'entre vous ont chanté au camp d'église quand vous étiez enfant,
se trouve l'Évangile. La bonne nouvelle de ce que Jésus a accompli dans l'espace, le temps et l'histoire.
Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous.
Et vous pouvez être sauvés par la grâce, par la foi en Jésus. Vous pouvez être pardonnés. Vous pouvez naître de nouveau. Vous pouvez être rendus nouveau. Il vous suffit simplement de vous repentir et de croire.
Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé.
Voilà l'Évangile. Voilà la bonne nouvelle. Qu'en ferez-vous? Aujourd'hui est le jour du salut.
29. Ses disciples lui dirent « Ah, maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies plus de langage figuré. »
30. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge.
C'est pourquoi nous croyons que tu es venu de Dieu.
Les disciples sont un peu comme « Ah, maintenant nous comprenons. Maintenant nous avons saisi. Maintenant nous n'avons plus besoin de te poser toutes ces questions. »
On peut presque ressentir l'enthousiasme et l'excitation des disciples. Mais les disciples ne comprennent pas encore pleinement ce qui va arriver.
De nouveau, Jésus les avertit.
31. Jésus leur répondit. « Croyez-vous maintenant ? »
32.
L'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés, chacun de son côté, et me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi.
Rappelez-vous, cela se passe juste avant que les autorités viennent arrêter Jésus. Et Jésus leur dit que lorsqu'ils viendront pour lui, les disciples seront dispersés. Les disciples l'abandonneront. Le berger sera frappé, et les brebis seront dispersées. Ils laisseront effectivement Jésus seul. Mais Jésus leur dit qu'il n'est jamais seul. Le Père est avec lui.
33. Je vous ai dit ces choses, afin qu'en moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde.
J'ai dit que le verset 28 était un verset rempli d'un enseignement riche. Mais le verset 33 l'est aussi. Il y a tant de choses dans ce verset. Comment penser aux difficultés de ce monde, mais aussi notre capacité à surmonter ces difficultés grâce à la paix disponible en Jésus-Christ.
Souvenez-vous qu'au chapitre 14 de Jean, Jésus a dit « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. »
Jésus nous donne une paix surnaturelle en lui.
Ce n'est pas une paix que ce monde peut offrir. Vous pouvez acheter beaucoup de choses dans ce monde, mais vous ne pouvez pas acheter la paix.
Le monde ne peut pas vous donner la paix spirituelle que Jésus vous donne. Elle est divine. C'est une paix qui vous aide au cœur des combats de cette vie.
Philippiens 4 dit que cette paix de Jésus surpasse toute intelligence. En d'autres termes, c'est une paix qui n'a pas de sens pour le monde.
C'est une paix qui demeure même au sein des difficultés de la vie.
même au cœur des tempêtes de cette vie, même face aux problèmes de cette vie. Jésus n'a jamais dit que tous vos problèmes disparaîtraient. Au verset 33, il dit le contraire. Dans ce monde, il y aura des problèmes. Il y aura des épreuves. Ce sera difficile. Mais en tant que croyants, nous pouvons avoir la paix, sachant que Jésus-Christ a vaincu le monde.
Le prédicateur sur scène ce jour-là n'aurait jamais dû dire « Viens et suis Jésus, et tous tes problèmes disparaîtront ». Ce qu'il aurait dû dire, c'est « Viens et suis Jésus, et sa paix apparaîtra ». Ce qui signifie « Tu peux avoir la paix lorsque tu perds ton emploi ».
Tu peux avoir la paix lorsque tu es allongé sur un lit d'hôpital.
Tu peux avoir la paix lorsque tes collègues se moquent de toi à cause de ta foi.
Tu peux avoir la paix lorsque tu traverses une période difficile dans ton mariage.
Tu peux avoir la paix lorsque tu échoues à un examen.
Tu peux avoir la paix lorsque tu n'as plus d'argent.
Tu peux avoir la paix lorsque ton avenir est incertain.
Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ a vaincu le monde.
Il a triomphé du péché et de la mort une fois pour toutes.
Nous avons en lui une espérance inébranlable et indestructible.
Quelqu'un m'a dit un jour qu'avant de regarder un film, elle va sur Wikipédia et lit tout le résumé du film, parce qu'elle ne veut pas être stressée en regardant le film. Elle pense que si elle sait comment le film se termine, alors le début et le milieu du film ne seront pas aussi stressants.
Je pense que cela gâche un peu le film, mais bon, c'est ce qui fonctionne pour elle.
Mais le même concept se trouve ici, au verset 33.
Nous pouvons avoir la paix au milieu des épreuves de la vie parce que nous savons comment l'histoire se termine.
La paix est quelque chose qui nous est donné en Christ, mais c'est aussi quelque chose dans laquelle Dieu nous fait grandir.
C'est l'un des fruits de l'Esprit mentionné dans Galates 5.
Ainsi, plus nous voyons Dieu agir au cœur des épreuves de la vie, plus notre paix grandit.
Suivre Jésus ne signifie pas que tous tes problèmes vont disparaître.
Nous sommes appelés à prendre notre croix, comme lui a pris la sienne.
Il y aura des épreuves, il y aura des tempêtes.
Mais tu peux avoir la paix dans la tribulation,
tu peux être encouragé,
tu peux avoir confiance.
Tu peux être audacieux et courageux,
parce que Jésus-Christ a vaincu le monde.
Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés.
Le chapitre 17 est la prière de Jésus.
C'est l'un des passages les plus intimes, sinon le plus intime, de toute la Bible.
C'est la dernière prière de Jésus avec les disciples,
et il ouvre son cœur au Seigneur devant ses amis.
La prière se divise en trois parties.
Dans les versets 1 à 5, Jésus prie pour lui-même.
Dans les versets 6 à 19, il prie pour les apôtres.
Et dans les six derniers versets, il prie pour l'Église et pour le monde.
17. 1. Lorsque Jésus eut dit ces paroles, il leva les yeux au ciel.
Une petite remarque avant que nous lisions la prière de Jésus.
Remarquez sa posture. Bien souvent, quand nous prions, nous fermons les yeux et nous baissons la tête.
Parfois, on nous demande même d'incliner la tête et de fermer les yeux.
Mais Jésus, ici, en Jean 17, mais aussi en Jean 11, quand il ressuscite Lazare d'entre les morts, lève la tête et il semble avoir les yeux ouverts.
C'est exactement l'opposé de ce qu'on nous a souvent appris à faire pour prier.
Maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose de mal à fermer les yeux et à baisser la tête?
Non, bien sûr que non.
Fermer les yeux peut nous aider à rester concentrés.
Mais tu n'es pas obligé de fermer les yeux ou de baisser la tête.
Tu peux suivre l'exemple de Jésus ici, si tu veux.
Tête relevée, yeux ouverts.
17. 1. Lorsque Jésus eut dit ces paroles, il leva les yeux au ciel et dit:
Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie.
2. Puisque tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés.
Dans ces versets, Jésus prie pour lui-même.
Au tout début de l'évangile de Jean, la mère de Jésus, Marie, veut que Jésus fasse quelque chose lorsqu'il manque de vin au mariage de Cana. Mais Jésus lui dit, « Mon heure n'est pas encore venue. » Mais ici Jésus dit, « L'heure est venue, c'est le moment. Glorifie-moi comme je te glorifie. »
Glorifier signifie honorer ou reconnaître quelqu'un positivement.
Jésus demande au Père de le glorifier alors qu'il va à la croix pour mourir pour les péchés du monde. Bien sûr, cette prière sera exaucée, puisque Jésus va effectivement mourir sur la croix, mais ressusciter dans la gloire. Il est dit que la vie éternelle est disponible en Jésus-Christ. Qu'est-ce que la vie éternelle? Je suis heureux que tu poses la question. 3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. 4. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. 5. Et maintenant, Père, glorifie-moi, auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde existe.
La vie éternelle, telle que Jésus la définit ici, ne consiste pas à vivre pour toujours, même si cela en fait partie. La vie éternelle, selon Jésus, ne se limite pas à un passeport pour le ciel, même si cela en fait partie également. La vie éternelle, telle que Jésus la définit ici, consiste à connaître Dieu, à connaître Jésus-Christ. Il ne s'agit pas seulement de connaissance, même si cela en fait partie. Cette connaissance dont Jésus parle ici désigne une relation intime avec le Dieu vivant. Il y a une différence entre connaître des choses sur Jésus et le connaître véritablement. N'importe qui peut connaître des faits et avoir des informations sur Jésus. N'importe qui peut avoir des connaissances. Mais le connaître en tant que Seigneur et Sauveur de sa vie, avoir une relation avec lui, c'est tout autre chose. Le suivre alors qu'il te conduit. Marcher par la foi.
Et non par la vue.
Et le premier pas vers une relation avec Jésus, c'est de croire en lui. Croire qu'il a effectivement accompli l'œuvre que Dieu le Père lui a confiée sur la croix. Et, alors que Jésus s'approche de la croix, il prie pour que le Père soit glorifié en lui.
6. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde.
Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole.
7. Maintenant ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi.
8. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, ils les ont reçues.
Et ils ont vraiment reconnu que je suis venu de toi.
Et ils ont cru que tu m'as envoyé.
Alors que Jésus prie, on ressent un sentiment d'accomplissement.
Il a rempli l'appel que Dieu le Père lui avait confié.
Jésus dit qu'il s'est manifesté au peuple de Dieu.
Jésus dit qu'il a transmis les paroles que Dieu lui avait données.
Jésus est venu accomplir la volonté de Dieu le Père. Et ici, il peut regarder en arrière et dire qu'il l'a fait, qu'il a terminé la course que Dieu lui avait fixée.
C'est un rappel pour nous de persévérer. La tentation d'abandonner sera toujours présente.
La vie est difficile. Il y aura des obstacles.
Mais combien il sera doux, à la fin de notre séjour sur terre, de regarder en arrière et de pouvoir dire comme l'apôtre Paul, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. »
Continue. Continue d'accomplir l'appel que le Seigneur a placé sur ta vie.
9. Je prie pour eux, je ne prie pas pour le monde,
mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi.
10. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux.
11. Je ne suis plus dans le monde, mais eux sont dans le monde, et je vais à toi.
Père Saint, garde-les en ton nom, que tu m'as donné, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un.
Jésus va bientôt aller à la croix, mais il prie pour ses disciples, ses amis.
Il va les quitter, mais il prie pour qu'ils soient unis, avec la même unité que Jésus a connue avec Dieu le Père.
12. Pendant que j'étais avec eux,
je les gardais en ton nom, que tu m'as donné.
Je les ai protégés, et aucun d'eux ne s'est perdu, si ce n'est le fils de la perdition, afin que l'écriture soit accomplie.
13 Maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite.
Pendant qu'il était sur la terre, Jésus protégeait ses disciples.
Judas, le fils de la perdition, a abandonné Jésus, mais cela même est arrivé conformément à la parole de Dieu.
14 Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde.
15 Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal.
16 Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde.
Nous avons parlé de cette tension au chapitre 15.
Lorsque Jésus dit le monde, il ne parle pas de la planète Terre. Il parle plutôt d'une idéologie qui s'oppose à Dieu. C'est l'amour pour un système spirituel contraire à Dieu et aux choses de Dieu.
Ce sont des gens qui ne croient pas en Dieu, qui rejettent Dieu, qui sont contre Dieu, et on peut en retrouver l'influence et les effets partout.
Ainsi, tout comme les disciples.
Jésus nous sauve de la brisure de ce monde, mais nous sommes encore dans le monde.
Nous sommes donc dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde.
Et nous sommes ici dans ce monde, car il reste encore du travail à accomplir.
Les personnes perdues ont encore besoin d'entendre la bonne nouvelle de l'Évangile.
17. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est la vérité.
18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde.
19. Et je me sanctifie moi-même, pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés dans la vérité.
Jésus demande à Dieu de sanctifier ses disciples.
La sanctification est le processus par lequel nous devenons de plus en plus semblables à Jésus-Christ.
C'est le processus par lequel nous devenons saints, comme Christ est saint.
Il s'agit de grandir dans notre obéissance au Seigneur dans nos vies et de devenir plus mûrs.
Comment y parvenir?
Jésus dit que cela se fait par la parole de Dieu, par la vérité de Dieu.
Lorsque nous lisons et entendons la parole de Dieu,
le Saint-Esprit met des choses dans notre cœur afin que nous puissions grandir et devenir plus semblables à Christ.
L'une des choses que je déteste faire, c'est repasser mes vêtements.
Je n'en suis pas fan.
Il y a certaines chemises que je n'ai pas portées depuis des mois,
simplement parce qu'elles sont froissées et que je ne veux pas les repasser.
Mais pour enlever les plis, il faut les repasser.
Il faut de la chaleur pour chauffer l'eau qui produit la vapeur.
Puis, il faut prendre le fer et le presser sur les vêtements pour en retirer les plis.
C'est la chaleur et la pression qui rendent les vêtements lisses.
De la même manière, Dieu enlève les plis de ta vie par la parole de Dieu qui appuie sur ta vie avec la chaleur ou la vapeur, si tu veux, du Saint-Esprit.
C'est ainsi qu'il te sanctifie.
C'est ainsi qu'il te rend plus saint.
Donc, si tu n'es pas dans la parole, si tu n'es pas dans la vérité, s'il n'y a rien qui appuie sur ta vie,
comment les plis de ta vie peuvent-ils disparaître?
Ils ne disparaissent pas.
Ils restent simplement au même endroit,
comme ces chemises que je n'ai pas portées depuis des mois.
Au camp de louange, Crystal a appris aux enfants un chant simple,
qui est tout aussi vrai pour nous aujourd'hui.
Lis la Bible, prie chaque jour,
prie chaque jour, prie chaque jour.
Lis la Bible, prie chaque jour,
si tu veux grandir.
Si tu veux grandir, si tu veux grandir.
Alléluia.
Lis la Bible, prie chaque jour,
si tu veux grandir.
Tu grandis en entendant la parole de Dieu et en appliquant la parole de Dieu à ta vie.
Sois sanctifié dans la vérité.
Sa parole est la vérité.
Dans Jean 17, Jésus n'a pas seulement prié pour ses disciples, mais il a prié pour toi.
20. Je ne prie pas seulement pour ceux-ci, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole.
21. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi,
qu'eux aussi soient en nous,
pour que le monde croie que tu m'as envoyé.
22. La gloire que tu m'as donnée, je la leur ai donnée,
afin qu'ils soient un, comme nous sommes un.
23.
moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un.
Et que le monde sache que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés, comme tu m'as aimé. Quelle est la prière principale de Jésus pour nous? A-t-il prié pour que Dieu nous donne de beaux nouveaux bâtiments pour nous réunir? Jésus a-t-il prié pour que nous ayons un excellent ministère pour les enfants ou pour les jeunes adultes? Ces choses sont excellentes, mais ce n'était pas la plus grande préoccupation de Jésus lorsqu'il a prié pour nous. Quelle était la prière principale de Jésus pour nous? Que nous soyons un, que nous soyons unis, que nous soyons ensemble.
Il y a une telle force et une telle puissance lorsque le peuple de Dieu se réunit au nom de Jésus. Quand nous sommes tous ensemble ici à adorer et à proclamer la bonté de Dieu, c'est puissant. Et en même temps, les églises sont très fragiles. Comme certains d'entre vous le savent, il ne faut pas grand-chose pour qu'une église se divise ou se fracture. Les églises peuvent facilement devenir divisées. Je suis sûr que certains d'entre vous ont vécu cela dans leur vie. C'est incroyablement triste et douloureux. C'est pourquoi c'est la principale préoccupation de Jésus lorsqu'il a prié pour nous. Soyez unis. Soyez ensemble. Il y a des fauteurs de division et des bâtisseurs d'unité. Les fauteurs de division sont des choses qui détruisent l'unité de l'Église. Des choses comme les commérages, l'orgueil, l'égoïsme, les conflits non résolus, le manque de pardon, la dureté, les uns envers les autres. Le mensonge, je pourrais continuer encore et encore. Ce sont des fauteurs de division. Ces choses détruisent notre unité. Mais les bâtisseurs d'unité, ce sont des choses qui construisent l'unité de notre Église, comme l'humilité, la communion fraternelle, le service, la résolution saine des conflits, la prière, le pardon. Je pourrais continuer encore et encore. Ce sont des bâtisseurs d'unité.
Es-tu un fauteur de division ou un bâtisseur d'unité? Jésus a prié pour que tu sois un bâtisseur d'unité, pour que nous soyons un. Dernier verset.
Sais-tu cela au sujet de Jésus? Le crois-tu quand il le dit? Peut-être que tu as l'impression d'être un fardeau pour les gens dans ce monde. Peut-être que tu as l'impression de toujours déranger les autres. Mais tu n'es pas un fardeau pour Christ. Il veut passer du temps avec toi. Il te veut. Non seulement nous désirons être avec lui, face à face un jour, mais lui aussi attend avec impatience ce jour-là. Que tu sois là où il est, pour voir sa gloire. Oui, nous savons que nous sommes censés désirer Dieu, mais comprends-tu que Dieu te désire aussi? Réfléchis à cela cette semaine. Dans la prière de Jésus, nous voyons beaucoup de choses sur son cœur. La gloire de Dieu, que nous soyons sanctifiés dans la vérité de Dieu, que
que nous soyons unis. Voilà ce qui était sur le cœur de Jésus. C'est pourquoi cela devrait aussi être sur notre cœur.
Après que Jésus ait prié cette prière, tout ce qu'il avait dit qui arriverait arriva.
Judas l'a trahi. Il a été arrêté. Il a été jugé et condamné à mort. Les disciples se sont dispersés. Il a été crucifié. Il a été enterré. Mais 3 jours plus tard, il est ressuscité. Pendant 40 jours, comme Jésus l'avait annoncé, il a enseigné clairement aux disciples les vérités de Dieu. Puis il est monté au ciel et s'est assis à la droite de Dieu le Père.
En d'autres termes, Jésus a dit la vérité. Tout ce qu'il avait dit qui arriverait est arrivé. Ainsi, lorsque Jésus te dit que tu peux avoir la paix, même dans les tempêtes de la vie, il te dit la vérité. La question n'est pas de savoir si tu as la paix ou non. Jésus nous a promis qu'en lui, nous avons la paix. La paix est là. La question, c'est de savoir si tu t'appuies sur cette paix dans les tempêtes de cette vie. La tentation sera toujours de paniquer. Mais la panique ne t'amène nulle part. La panique aggrave la situation, mais la paix peut t'aider à traverser. Jésus a dit à ses disciples qu'il leur avait dit toutes ces choses dans le discours du Cénacle, avant de les quitter, afin qu'ils aient la paix. Et cette même paix, il te la donne. T'appuies-tu sur cette paix?